Alors, avril, ne te découvre pas d'un fil, mai, fais ce qu'il te plaît, et juin va carrément te faire enculer. Le temps est absolument exécrable. Bon, alors personnellement, moi, j'ai cette chance de ne pas avoir de soucis avec la pluie. Perso, je m'en fous, j'aime bien la nature dans sa globalité. C'est pas comme les gens qui disent adorer la nature et qui ensuite sortent pas quand il pleut pour se promener. Moi, j'aime bien la pluie, ça m'apaise quand je dors. Donc voilà, ça c'était le petit secret exclusif, mais voilà, le temps est pas super nickel, c'est un petit peu compliqué, et du coup, voilà, je suis tombé malade, donc je parle un peu du pif, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas d'autre moment pour enregistrer cet épisode. Bon, pour les news, rien de très spécial, cela dit, si vous allez sur ma page Instagram, vous verrez que autrefois il y avait un lien vers mon site internet. Là, j'ai mis un lien directement vers un Linktree, grosse révolution, mais cela dit, en cliquant dessus, ça vous donne accès à tous mes supports, à toutes les pages que j'utilise, que ce soit Instagram, Facebook, alors Facebook, je l'utilise plus trop, mais que ce soit aussi mes podcasts et mon site internet qui devrait être mis à jour sous peu, mais qui reste fonctionnel. Hein. Vous pouvez découvrir plein de belles choses. Il y a aussi de mes dessins que je poste pas forcément sur Instagram. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Bon, inutile de vous dire que je suis toujours dans les putains de choux. Je mouline à mort et je suis toujours à cheval entre 4 milliards 200 000 trucs, entre le sport, la maison, ma vie de famille, le travail de tatoueur, un peu de travail de graphisme à côté. Autant vous dire que j'ai à peu près 1 minute 30 par semaine pour fumer un cigare et lire un livre. Livre que je ne termine pas d'ailleurs, un livre, c'est le dernier, de Maxime Chattam. Je sais pas pourquoi j'aime bien Maxime Chattam, voilà, c'est deuxième révélation exclusive. Le bouquin s'appelle Luxe, je sais pas si vous l'avez lu, cela dit, il commence très mal. Il est rempli de certaines valeurs qui arrivent à me casser les couilles à une vitesse carrément supersonique, donc je me force un petit peu, même si le sujet a l'air vraiment sympa. Bref, je sais pas si vous lisez personnellement, mais voilà, ça reste une de mes activités préférées. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec le début de l'épisode, bonne écoute. Salut à tous, bienvenue dans le Tatou du Coin, le podcast pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur l'univers du tatouage ou en découvrir ses coulisses. Je suis Agnan Banholzer, aussi connu sous le nom du Bûcheron du Coin, tatoueur depuis près de 6 ans et diplômé des Beaux-Arts. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du tatouage. Mégados. Là, on est sur du plus de 500 pages. Petit caractère, justifié à gauche et à droite. Ça va être du méga lourd. Et en fait, non. En fait, non, parce que j'ai commencé pour faire tout un truc. Et je dois vous avouer que ça m'a vite gavé. En fait, je sais pas si c'est parce que j'en ai trop bouffé quand j'étais en école d'art, ou si c'est parce que, enfin je veux dire de l'histoire de l'art en général, hein, de l'histoire du tatouage, j'en ai pas du tout bouffé en école d'art, on en parle pas du tout, voilà, donc non, j'ai fait mes recherches, cela dit je vais rester quand même, on va dire assez succinct, ce sera sans doute un podcast qui sera un petit peu plus court, entre deux prises de Doliprane, mais voilà, je vous envoie ça. Alors, on va faire light, parce que, comme dit, on pourrait s'attarder un bon bout de temps sur le sujet, tellement il est obscur et dense à la fois. Et en fait, le tatouage a tout bonnement glissé sur l'histoire, hein. Bien que il soit ancré, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais bien qu'ils soient ancrés en fait dans nos sociétés depuis très très longtemps, ça je vous l'avais déjà dit, et il est remarqué, ou il est du moins mis en exergue, que très tardivement. Je vais donc faire un résumé assez trivial de tout ça, et je vais m'efforcer de présenter le plus intéressant au maximum. Dans un premier temps, on va regarder ensemble historiquement quelles traces on a du tatouage dans les grandes lignes, de ses premières manifestations jusqu'à la fin du 19e siècle, pardon, à peu près. Et puis, on va voir de quelle façon il a traversé les âges, ou sous quel statut. Vous connaissez mon amour pour le fond et l'intellectualisation du tatouage. Et donc, on va bien, mais bien se prendre le chou sur la place du tatouage socialement à travers les époques. Donc, le tatouage remonte à on ne sait pas bien quand. Je suis navré, c'est très obscur, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est... on a déjà parlé ça aussi, mais je pense vraiment que c'est une forme d'art qui est tellement proche de la vie, tellement proche de l'être humain, tellement intégré en fait dans, dans les rituels de vie, que vraiment c'est quelque chose de qui passe vachement sous les radars, quoi. Donc ça reste une pratique obscure même à l'époque, et c'est un peu comme s'il n'y avait jamais vraiment eu d'égard pour cette pratique, ce qui est assez dingue. Alors le mot, lui, de tatouage a été trouvé bien après son invention. Le mot tatouage, ça vient du polynésien tatou, alors j'espère que je le prononce bien, T-A-T-A-U, tatou, qui était utilisé à Tahiti, et c'est par le capitaine anglais James Cook, dont je vous avais aussi déjà parlé, ça fait beaucoup là, vers le milieu du XVIIIe siècle, et qui découvre des hommes et des femmes recouverts de tatouages. C'est en 1769 exactement, si je dis pas de bêtises. Donc les Maoris, les Samoa, dans le Pacifique Sud aussi. Alors pour info, les Samoanes, donc Samoa, sont un pays indépendant situé dans l'océan Pacifique Sud, composé de deux îles principales, Opolu et Savaii. Les Maoris vivent principalement en Nouvelle-Zélande, donc un pays du sud-ouest de l'océan Pacifique, et les Hawaïens, puisqu'on ne fait pas la liaison, je crois, vu qu'il y a un H, les Hawaïens sont originaires de l'état d'Hawaï, qui est un archipel situé dans l'océan Pacifique central. Voilà pour la géographie. Alors, dans leur culture, c'était une marque de virilité. Les jeunes hommes qui ne finissaient pas leur tatouage étaient montrés comme des lâches. C'est assez intéressant, ça, je trouve, parce que il fallait tenir l'incision. Donc, on fonctionnait comme ça à l'ancienne. Hein. C'était une incision et on versait l'encre dedans. Et puis, advienne que pourra. Donc, en général, plus l'homme était tatoué, plus il était considéré comme valeureux. Ou alors on s'en servait pour marquer certains criminels, déjà à cette époque. Alors le mot tatouage, ça veut dire marquer, dessiner ou encore frapper. Avant ça, on parle simplement de scarification, de peinture corporelle ou encore de tache. Donc plusieurs marins de Cook vont se faire tatouer et vont marquer leur peau de ce voyage et donc lancer cette mode. En revenant avec une preuve du voyage en gros, quoi. C'est une belle image quand on y pense. Si on prend la vie comme un long voyage en mer, au final, on marque aussi notre corps de nos aventures, ce que je trouve très joli. Et eux se faisaient par exemple une ancre quand ils avaient traversé l'Atlantique. Pour le sud de l'équateur, on va plutôt se faire tatouer une tortue. C'est un peu un carnet de voyage ou un passeport à l'époque. Alors, si on veut remonter méga loin, on a une momie de la culture des Chincoros dans le Pérou Pirinca. Donc c'est un groupe de chasseurs-cueilleurs qui pratiquaient la pêche et le ramassage des ressources côtières. C'est un groupe sédentaire, surtout connu pour leurs rites funéraires et en particulier pour leurs momies. En gros, c'est de 7000 à 1500 avant Jésus-Christ. On retrouve un tatouage de moustache sur la lèvre supérieure. Grande classe à la Tom Selleck déjà à l'époque. Petite touche d'humour aussi, je trouve ça assez sympa. En espérant que ce soit pas une toute petite moustache toute carrée sous le nez. Alors on a aussi Otzi. Otzi, vous connaissez sans doute parce que c'est le truc le plus cité, le truc le plus connu. C'est un homme momifié qui était retrouvé dans les glaces des Alpes ou dans les Dolomites, bon, c'est les Préalpes, quoi. C'est un motif tatoué au charbon le long de la colonne vertébrale et des poignets. Monsieur Petite Précieuse. Donc on a supposé que c'était des tatouages d'acupuncture, de soins, ça se faisait énormément, ça à l'époque, hein, faut le savoir. Ce qui est fou franchement, c'est que ça en dit long sur les pratiques déjà à l'époque concernant les soins du corps et la médecine. Un homme d'environ 45 ans pour 1m60 et un poids de 50 kg, bon je suppose qu'à l'époque c'était un géant quoi. Faut savoir que l'être humain il grandit avec le temps, je suppose qu'à l'époque le mec devait être déjà bien stock. Il avait les yeux bruns et les cheveux noirs. Il est mort vers la fin du Néolithique, autour de 3300 avant notre ère, soit il y a à peu près 5300 ans. Alors j'ai envie de dire que c'est là où on va voir si les tatouages y tiennent bien ma gueule, parce que si tu veux, 5300 ans, il y a moyen que ça ait un petit peu bavé. Ça serait intéressant de voir comment ça a vieilli, cela dit. Parce que 5300 ans, ça fait un petit peu beaucoup quand même. C'est, le service après-vente, il est mort depuis longtemps. Bon, il y avait des tribus inuites aussi, entre autres de ce cher Otsi. Alors à cette époque, on utilisait des os, des épines, bref, en fait, ce qu'on avait sous la main, de la suie, du charbon, des cendres, pour faire les pigments. Alors, il y a aussi la prêtresse Amunet du Moyen Empire égyptien qui arbore des tatouages sur le ventre. Que l'on associe à sa sexualité et à sa fertilité. C'est marrant quand même comme ça n'a pas changé depuis l'époque. On retrouve, je veux dire, c'est moins trivial aujourd'hui, c'est sûr. On va moins se faire tatouer un gros symbole, mets-moi un bébé dans le ventre, mais disons qu'on garde... On garde les mêmes aspects, on veut séduire avec nos tatouages, ce qui, in fine, délivrera sans doute la même chose, mais c'est assez marrant que le cahier de doléances de l'être humain avec le tatouage, il n'est pas changé de toutes ces années. Alors, ça c'est assez stylé, sous l'Antiquité, chez les Grecs et chez les Romains, on tatouait les esclaves et les mercenaires. Donc là, c'est en Grèce antique, on a les esclaves qui sont systématiquement tatoués d'une chouette, ou parfois d'un vaisseau de guerre sur le front, donc cash, les mecs, no life direct, paria forever. Donc du coup, en fait, ils peuvent plus dissimuler leur marque et ils sont repérables par tous et à tout moment. Et là, c'est vrai que pour le coup, tu peux plus les louper. Donc cette pratique, elle est née de l'aversion portée par les Grecs pour leurs ennemis perses. Ces derniers réservaient les tatouages aux notables. Les Grecs ont donc décidé de faire tout l'inverse et d'infliger des tatouages aux esclaves et aux prisonniers. Dans les lois, Platon souligne la connotation morale impliquée par le tatouage. Il est réservé comme un châtiment pour l'esclave et l'étranger coupable de vol d'une chose sacrée. Alors, il n'y a pas que les Grecs, comme je vous disais, il y a les Romains aussi, qui ont une pratique du tatouage, qui est très punitive. Les esclaves aussi sont marqués, mais vachement plus en scred. Non. Non, ils se font tatouer une lettre sur la fif, directe, juste entre les deux yeux, la première lettre de son maître, en plus. Là, c'est le moment où tout le monde sort les drapeaux et hurle, mais c'était comme ça. Et du coup, les mecs, ils s'appelaient Octavia. Donc tu t'en sortais à peu près bien. C'était à peu près propre. T'avais un rond entre les deux yeux, mais si le mec, il s'appelait Quintus, t'avais une chouette tête de cul. Bon, mais les mercenaires aussi avaient des tatouages pour les démarquer du reste, car les généraux romains n'étaient pas forcément confiants avec eux. Ils avaient assez peur que les mecs se rebellent, que les gars ne s'intègrent trop à l'équipe, à l'armée, et puis fassent tourner le vent. Alors, pour ce qui est des Gaulois, des Celtes et des Germains, et puis des Pictes, ils auront aussi leurs tatouages. Il y a malheureusement très peu de traces de leurs tatouages. Après recherche, j'en ai trouvé quasiment aucune pour les Gaulois. Pour les Celtes et pour les Pics, c'est bien plus simple, bien entendu, ça on connaît, hein, on a tous les références normalement, ne serait-ce que pour les séries télé. C'est des symboles géométriques, des animaux fantastiques, c'est le peuple du nord de l'Écosse, le tatouage Picte, en gros, ça a été mis en exergue par le peuple romain. Alors pour le coup, si vous avez des infos sur le tatouage gaulois, vraiment, n'hésitez pas à m'en envoyer, à m'envoyer des sources, à m'envoyer des liens, vous pouvez le faire en message privé, par mail, comme vous voulez. Parce que c'est une grosse galère pour trouver quelque chose. Il faudrait, je pense, que je passe par la case bibliothèque de Colmar pour essayer de trouver des trucs un peu plus pointus, mais sincèrement, j'en doute. Alors, chez nos amis du soleil levant au Japon, c'est plus vers le 7e siècle qu'on va commencer à marquer les criminels. Là aussi, c'est réservé pour les enculés. En France, plus localement, on utilise aussi le tatouage dès le 15e siècle. C'est pour les filles publiques, entre guillemets. Vous avez bien compris que c'est pour les prostituées ou filles de joie. Et elles ont le nez coupé et sont marquées d'un P sur le front, le bras ou la fesse, et les maquerelles aussi, mais elles ont la lettre M. Oui, parce que je rappelle qu'à cette époque, ce sont les femmes qui pimpent à mort. Donc pour les voleurs, c'est un VE, pour les mendiants, c'est un M, et un GAL pour galérien. Sympa cette époque, hein, ou alors un ENCUL, E accent aigu, pour les boomers. Non, ça c'est moi qui rajoute, mais c'est pour le plaisir. Bon, alors je sais que comme ça, ça fait pratique hardcore. Disons que le monde tournait quand même, je tiens à le rappeler, avant de s'indigner. Je pense qu'il y avait, on n'a pas toutes les clés de cette époque-là, donc voilà, ne jetons pas tout de suite le bébé avec l'eau du bain. Je serais curieux de voir un peu plus en détail comment ça se passait tout ça, parce qu'un nez coupé c'est quand même pas rien. À la rigueur, une petite lettre tatouée ça peut faire stylé, mais pas de nez, bon, pas de chocolat non plus. Alors, plus tard aussi, pendant la période victorienne, donc au 19e siècle, on se dit que le tatouage va disparaître. C'est dû aux mœurs et à la rigueur de ces temps-là, mais en fait pas du tout. Les marins continuent, et de plus en plus, et les soldats aussi, à se faire tatouer, même l'élite. Mais bon, ça va encore vachement cacher son tatouage, il y a une volonté de le garder secret, parce que à l'époque c'est stylé de pas l'afficher. Alors je sais pas si c'est vrai, mais apparemment la reine Victoria, donc c'est 1819 à 1901, avait un tigre qui s'affronte avec un gros python dans le dos, et elle l'aurait fait pendant son voyage au Japon. Ça, je trouve ça énormissime. Encore une fois, une belle preuve que le tatouage a toujours eu sa place d'outsider, sa place dans l'ombre, mais qu'il a toujours été bien présent dans l'histoire. Alors en fait, à ce moment-là, il n'est pas encore associé à l'image de la délinquance, du moins chez nous, dans les pays européens, et il devient, de par sa démocratisation au XXe siècle, un signe plus marginal et plus ostentatoire. À cette époque, il faut savoir qu'il y a quand même plus de 80%, même 90% des marins qui sont tatoués. Mais avant cette période, se faire tatouer, c'est très douloureux, puisqu'on incise la peau avant d'y mettre l'encre. Donc, ça décourage beaucoup de gens. Mais c'est le 8 décembre 1980. Mais c'est le 8 décembre 1891 qu'un petit gars nommé Samuel O'Reilly va breveter la première machine électrique à tatouer à Brooklyn, New York. Sa machine est inspirée d'un miméographe. Miméographe, c'est une invention de Thomas Edison, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est Thomas Edison, c'est le fondateur de General Electric. C'est une sorte de presse, son miméographe. C'est un ancêtre du fax. Et ça dispose d'un stylo électrique à l'intérieur qui compose le pochoir. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a une grosse révolution au niveau de l'exécution du tatouage et que ça devient aussi plus accessible. Pour les grandes personnalités d'ailleurs qui avaient des tatouages, faut savoir qu'il y avait aussi Churchill, méga classe, Roosevelt, Staline, le tsar Nicolas II, Thomas Edison lui-même bien sûr, et George Orwell ou Michel Drucker, figurez-vous. Mais que peut-on penser en fait du tatouage Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut penser du fait que le tatouage il soit pas sourcé et qu'il soit pas aussi bien renseigné que, par exemple, la peinture ou aucun autre art? Alors déjà, parce qu'il existe depuis très très longtemps, mais vous me direz que les peintures rupestres sont tout aussi vieilles et pourtant elles suscitent bien plus de curiosité ou de mise en lumière par les historiens. Et ça rejoint ce que je disais déjà sur un podcast précédent, quand je parlais des gens autour de moi qui pensent que le tatouage c'est pas vraiment un métier, ou du moins qui croient que en gros ça boit des bières entre deux coups de crayola et que je discute joint de carter avec de la musique très très forte derrière un cracheur de feu qui fait les cafés. Il y a toujours cette petite image hein, du tatouage, mais malheureusement qui continue d'être véhiculée par beaucoup de tatoueurs, que je prierais bien volontiers d'arrêter de faire ce genre de truc, mais en même temps c'est le monde du tatouage qui veut ça, donc voilà, on peut pas non plus jeter la pierre à tout le monde. Mais on dirait presque que le tatouage, en fait, il veut pas se ranger avec les autres formes d'art. C'est comme si l'inconscient collectif, en fait, il avait bien compris qu'il y a une dimension hasardeuse et spirituelle à la pratique. Et même le lexique qu'on utilise pour parler, il n'est pas aussi fourni que, par exemple, la peinture. La peinture à l'huile, on pourrait passer des heures à énumérer les différentes techniques entre le sfumato, le alla prima, le camailleux, l'empattement, etc., etc. Il y a un lexique qui est très très fourni dans le tatou. C'est vite fait quoi. Bon, le principe intellectuel et moral de l'art, lui, il est admis depuis très longtemps. On connaît le truc, pas de souci. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui encore, la peau et le corps humain sont les supports spécifiques au tatouage. Parce que si je tatoue une orange, ce n'est pas du tatouage. Et bien que ces supports constituent un obstacle pour les tribunaux qui lui refusent donc au tatouage, malgré les arguments entendus et admis, d'être défini comme une œuvre d'art à part entière. Et là, je vais me faire des ennemis, mais je trouve ça finalement très bien. Parce que il y a au-dessous de... En deçà, on va dire, pour se la péter un peu plus, il y a en deçà de tout ce fun que pourrait présenter cette pratique, il y a une ligne très fine, très très fine, entre l'expression de soi et l'autodestruction. C'est vrai que quand on y pense calmement, en fait, le tatouage, ça peut aussi dégrader le corps. Et pas seulement en tant que clinique, ou en tant que cas d'infection ou de choses comme ça, mais aussi parce qu'il peut littéralement changer quelqu'un. Il peut changer la perception que vous avez de quelqu'un et changer la perception que quelqu'un a de lui-même. La responsabilité qui pèse en fait sur la pratique, elle est bien différente d'un tableau qu'on accroche ou qu'on va décrocher. S'il nous plaît plus, par exemple. Le tableau, c'est pas une partie intégrante de nous, quoi. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce que toutes ces années, le tatouage, en fait, ça aurait pas été vu pour ce qu'il est, mais vu par le prisme de notre corps ? Je m'explique. Est-ce qu'il est vraiment possible de détacher la pièce du corps de la personne ? Est-ce qu'on peut vraiment enlever la pièce du bout de peau de la personne qui a été tatouée, quoi ? Peut-être que tous ces milliers d'années, à force d'avoir le nez dessus, ou tout simplement le tatouage en nous, eh bien, on n'a naturellement pas souhaité que ça ait la même valeur qu'une toile tendue ou qu'une pierre taillée, par exemple. Alors, les gars, je sais que je peux être relou avec le sacré et tout, mais sincèrement, après un bilan comme celui-là, est-ce que c'est encore utile de douter de l'extraordinairité, je sais pas si ça se dit, du tatouage ? Franchement, les gens se respectent plus aujourd'hui, pour parler crûment, je parle de la masse, hein, généralement, et il est normal que du coup, ils respectent plus leur corps et qu'ils n'y voient plus ce côté extraordinaire se mettre de l'encre dans la peau. Peut-être que, en fait, la malédiction... ou le destin du tatouage, c'est finalement de rester sur cette arête de toi entre art et magie et de courir à tout jamais après la reconnaissance alors que ça serait plus une forme très singulière de communion avec nous-mêmes. Bon, je vais de nouveau faire ça va être la minute d'Aron, mais je me pose la question, par exemple, et si on essayait une fois de venir à notre session tatouage comme si on venait à notre propre mariage. Je veux dire, est-ce qu'on n'essaierait pas d'en méditer le symbole de la souffrance endurée volontairement en plus ? Est-ce qu'on n'essayerait pas de fermer les yeux, de réaliser ce qui se passe vraiment pendant une session ? Je rappelle que vous prêtez votre corps pendant plusieurs heures, pardon, donc c'est pas anodin. Et vous n'avez plus le contrôle. Vous faites confiance pour un truc qui partira plus sur votre corps, qui vous a été donné qu'une fois, et qui fait de vous en partie qui vous êtes. Vous inviterez sans doute pas votre tatoueur à manger avec votre famille un dimanche, mais vous le laisserez vous mettre de l'encre sous la peau. S'il n'y a pas là un truc qui vous parle, moi je sais pas trop, mais c'est vrai que dans la vie du tatouage, l'acte de tatouage, il est très court. En fait, quand on parle de tatouage en général, il y a des gens qui portent des tatouages, et ça, c'est la plus grande partie. Finalement, vous allez vous faire tatouer quoi ? 3 heures, 4 heures, 5 heures, peu importe. Mais votre tatouage, vous allez le porter longtemps. C'est-à-dire que la vie du tatouage qui commence au moment où le tatoueur pique, elle est très très longue. Et l'acte du tatouage est très très court. Bon voilà, je vous avais dit que ça serait plus court, mais au final, l'histoire du tatouage, c'est qu'un profond reflet de tout ce que je viens de vous dire. Peu importe où et quand ça a commencé de la même manière que ça terminera. Ça terminera avec nous, les gars. L'étoile, la pierre, les pellicules ou l'architecture, elles nous survivront. Mais le corps et le tatouage, ben, eux, ils vont se décomposer. On n'a pas tous la même chance qu'Ozzy de finir dans un petit bac cryogénisé naturellement. Voilà, voilà, yes, superbe conclusion à se foutre un coup de douze dans le garage. Mais bon, moi je vois ça du bon côté, je vois ça du côté beau de la chose, parce que intellectuellement parlant et spirituellement parlant, bah, c'est super badass, je trouve. C'est des vrais... ça rajoute une vraie dimension au tatouage, c'est des vraies problématiques philosophiques et spirituelles. Mais bon, après, libre à chacun de voir le beau, c'est sûr qu'il y a plus sympa pour terminer un podcast. Alors, pour les sources, je vous propose, si le sujet vous intéresse à mort, d'aller voir sur le site de Lars Krutak. Donc Lars, L-A-R-S, Krutak, K-R-U-T-A-K. C'est un anthropologue qui s'intéresse bien plus en profondeur que la plupart de ses collègues au monde du tatouage, et précisément aux différentes pratiques dans le monde. C'est très complet et c'est très dense. Voilà, je sais qu'on a survolé le truc. Je l'ai fait version ultra, ultra, ultra boostée, ultra rapide. Il y a plein de choses à dire. Plein de détails, sans doute très croustillants dans l'histoire de l'art du tatouage. Mais vous avez une sorte de diagonale. Après, je peux pas non plus faire toutes les ethnies, je peux pas faire tous les peuples, ça serait trop long. Et puis là où il y a foison, c'est-à-dire bah, plus dans les pays orientaux, les choses comme ça, je suis pas du tout un expert. Il faudrait y passer mais des heures et des heures, donc ça serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, retenez simplement que l'histoire du tatouage, malheureusement, n'est pas comme ça, toute tracée, elle n'est pas particulièrement bien bornée. C'est ultra compliqué de retrouver qui de quoi et à partir de quand ça a réellement commencé. Comme dit, je pense que le truc le plus chouette, et s'il y avait une leçon à tirer entre guillemets de tout ça, c'est de se dire que le tatouage, c'est une forme d'art qui est très très imbriquée avec nous. C'est même à se demander si c'est vraiment une forme d'art ou pas. Et ça reste, comme j'aime bien le répéter, quelque chose de super unique. Vraiment, rien ne ressemble au tatouage, quoi. Donc si ça peut aider et ses protagonistes et les clients à garder la flamme et à peut-être, essayer de tirer encore plus le tatouage vers le haut, de lui donner toutes ses lettres de noblesse, de le polir encore et encore, ben tant mieux. Moi je suis pour ça. Ça reste pour moi une pratique. Ça reste pour moi une pratique complètement incroyable. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est un peu plus court, mais je pense que l'essentiel est là. Si vous avez des choses à rajouter, que vous voulez compléter, ben, n'hésitez pas à m'envoyer vos liens ou vos commentaires par mail ou par message privé. Je vous invite bien sûr, si vous ne le faites pas encore, à me suivre sur Instagram, Facebook, Tutti Quanti, à me laisser des commentaires, à liker mes nouveaux posts. Ça me donne énormément de force et de visibilité de plus en plus sur les réseaux. Pour mes clients, si vous êtes passé par mes petites mimines, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Google. Vous pouvez trouver mon établissement en tapant simplement le bûcheron du coin et vous allez trouver l'adresse de mon établissement. N'hésitez pas à mettre des jolies étoiles, à me laisser des commentaires. C'est pareil, le référencement, c'est un peu nul, mais la période qui est comme ça. Il devrait y avoir des flashs Harry Potter pour les fans de Harry Potter. C'est mon épouse qui m'a un petit peu poussé, mais je pense qu'elle a raison. C'est assez sympa et puis ça se marie bien avec le milieu médiéval. Donc je fais des flashs de Harry Potter version médiévale, un peu comme les défis héroïques, pardon, ou les trucs comme ça. Donc voilà, je devrais poster ça prochainement. Si vous voulez plus d'informations avant qu'il ne soit posté, et ben comme vous écoutez ce podcast, je vous envoie les flashs en avance et puis ça vous permettra de pouvoir les réserver avant les autres. Voilà, c'est tout pour moi. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.